suis Catherine Rossi-Batou, je suis directrice de Lux, la scène nationale de Valence. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis là, moi, aujourd'hui. Sachant que j'ai une double casquette aussi, c'est que je suis pour faire comme mon corps professionnel associé à l'université de Lumière 2, et j'ai mon complice de l'université qui est à côté de moi. Voilà, donc on œuvre aujourd'hui dans un autre champ. J'interviens demain, je crois, c'est ça, demain matin, pour une intervention vidéologique que la mienne. Moi, la mienne, vous l'avez vue, est plutôt un compte-rendu d'expérience qualifié d'innovante. On va voir si elles sont innovantes. En l'occurrence, il est vrai que je suis à une période où j'expérimente beaucoup de choses, mais que ce que j'expérimente, c'est fondé sur une pratique assez conséquente maintenant dans le temps. Alors, en deux mots, je me présente, hein, je vais être très très rapide, et puis surtout, je vais vous dire ce qu'on fait à Lux à Valence. Moi, j'ai un profil de communication, mais j'ai toujours voulu travailler dans l'action culturelle, donc par un intérêt très très grand, et ma première expérience a été de lancer un lieu à Strasbourg qui s'appelle Pôle Sud, qui est un lieu dédié à la danse contemporaine, à la musique, et qui avait, au moment de sa création dans les années 80, une partie cinéma jeune public. Je me suis tellement prise au jeu du cinéma que j'ai terminé assez vite à diriger un cinéma à Strasbourg, un cinéma de recherche, et que l'aventure Strasbourg m'a emmenée dans la Drôme au moment où la scène nationale qui s'appelait le CRAC connaissait une phase très importante dans son cinéma de développement. J'ai été recrutée notamment pour mettre en place une programmation cinéma. Sachant que le CRAC, scène nationale, est un lieu donc, qui est rattaché au ministère de la Culture, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le label, hein. C'est un lieu donc, qui est donné à des lieux plutôt axés sur la diffusion de spectacles vivants. Que le CRAC a eu pendant longtemps la programmation théâtrale au sein d'un théâtre, qui est un théâtre municipal à Valence, que depuis 1998, il y a eu un partage, on va dire, des institutions culturelles sur la ville de Valence, puisqu'il y a maintenant un centre dramatique qui s'appelle la Comédie de Valence, et que le CRAC a conservé son label de scène nationale, ses missions et son financement, pour une action très singulière autour de l'image. Donc on est la seule scène nationale en France qui n'a pas de plateau, qui n'accueille pas d'artistes pour des spectacles. Hein. Si vous connaissez la lycée à Grenoble ou l'Hexagone, si on parle simplement de celles qui sont de proximité, je pense que vous venez tous à peu près de la région. Non, pas du tout. Non, mais c'est très bien. Très très bien. Je suis ravie. Non, mais j'ai tellement l'habitude d'intervenir dans des formations qui sont régionales, c'est pour ça que je pose la question. C'est beaucoup mieux d'intervenir à une échelle nationale, donc de fait, vous avez tous à proximité une scène nationale, je ne vais pas vous les citer parce que je ne sais pas d'où vous venez, mais en tout cas, on travaille tous en réseau. Et donc, les scènes nationales, effectivement, si elles travaillent sur le spectacle vivant, elles ont dans leur réseau un lieu particulier qui travaille sur l'image. Donc, c'est un lieu qui a connu plusieurs directions différentes ces dernières années. Moi, j'ai postulé l'année dernière à la direction de cette maison. Je suis donc jeune directrice, toute jeune, puisque j'ai été nommée en juillet dernier, sur un projet qui est proprement interdisciplinaire, qui est un projet sur les convergences et les croisements. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, d'ailleurs. Bonjour.
Bonjour.
C'est-à-dire que, connaissons très bien le lieu, l'outil dans lequel je travaille aujourd'hui, qui est quoi ? Qui est d'abord un lieu de cinéma, hein, puisque la scène nationale a investi ce lieu dans les années 95, et que ce lieu était, à ce moment-là, avait été, on va dire, des années 40 jusqu'au moment de la fermeture, un cinéma. Donc racheté par la ville de Valence au moment de la crise du cinéma. Donc réinvesti avec, évidemment, cette partie cinématographique très importante, mais aussi deux salles d'exposition. Est-ce que quelqu'un est venu déjà dans ce lieu à Valence, à part Jacques? Oui, je vois qu'il y en a qui vous connaissent. Okay. Donc la question de l'image, elle était fondamentale, on va dire, dans le projet de la personne qui l'a fondée, qui s'appelle Pascal Mez. Fondamentale pourquoi? Parce qu'elle a toujours considéré que l'image était la pierre angulaire des arts, au moins dans le XXe siècle, on va dire. Et ça confirme qu'elle le reste dans le XXIe siècle, si ce n'est qu'elle a une place encore plus développée aujourd'hui. Donc l'image, ça prenait quelle forme? Ça a pris, en tout cas, pour Françoise, la place de site de festival très particulier, Jean 1, qui a été premier en région, qui était cinéma-histoire, qui a été créé dans les années 70, interpellant effectivement la question des relations entre le cinéma et l'histoire, qui est l'une des questions, je pense, que vous allez aborder dans ces deux jours. C'était en tout cas le premier festival de cinéma qui se mettait en place en région, à un moment où le paysage des festivals, vous imaginez qu'il était page blanche quasiment, Donc un festival qui a eu d'emblée de la notoriété parce qu'il était unique et parce que Françoise avait d'emblée l'ambition de se dire qu'il était intéressant de réunir beaucoup d'artistes, beaucoup de cinéastes, mais aussi beaucoup d'intellectuels, et qu'elle avait effectivement, elle s'était donné les moyens d'avoir les plus grands. Donc on s'aperçoit qu'à Valence, il y a effectivement beaucoup de gens qui étaient déjà des stars. Je vous cite simplement, hier je retrouvais des photos de Jack Lang venu en 83 inaugurer l'enseignement de cinéma à Valence. On a eu Gainsbourg, il y a eu Marguerite Duras, enfin j'en passe à des meilleurs, mais c'est un lieu qui a été très très marqué parce qu'il a accueilli des gens, alors pas dans un fantasme de starification, mais des gens qui avaient de la notoriété et il s'est aussi construit là-dessus. L'idée c'était pas faire un tapis rouge et faire venir des stars, l'idée c'était confronter effectivement des artistes et des intellectuels de différents champs pour un festival avec quand même pas mal d'envergure. En tout cas, le CRAC a été connu, entre autres, par ce festival, qui est de cinéma-histoire, de cinéma-littérature, puis a évolué ces dernières années pour être un festival qui s'appelait Repérage, centré sur le cinéma muet, et qui interrogea le contexte de réalisation de ce film. Hein, ça pouvait être L'homme à la caméra, M'abuse, par exemple, donc des films, évidemment, des années 20. Réinvesti, on va dire, dans leur contexte de création, mais qui interrogeait aussi comment un film peut influencer après toute la génération des cinéastes qui ont suivi. Donc c'était à la fois une réflexion sur le contexte et une réflexion sur la filiation hein, et les citations. Donc pourquoi je vous parle du CRAC ? Parce qu'on est passé au luxe. Alors en 2007, par un changement de directeur qui s'appelait Jérôme Delormas, qui lui était plutôt dans le champ des arts plastiques, la page de CRAC a souhaité être tournée, donc le nom du lieu a changé, nouvelle identité, luxe qui nous ramène effectivement à la question de la lumière, avec une volonté assez marquée de Jean-Claude Jérôme d'ouvrir sur la pluridisciplinarité. Donc de fait, je suis en l'occurrence, je vous parle de ces débuts recteurs parce que quelque part, je suis aussi dans le tuilage de ce qui a été fait avant moi et que je pense qu'on construit aussi sur les fondements qui ont été faits avant nous. Donc je pense qu'il faut savoir s'approprier ces aspects-là tout en ouvrant le lieu sur autre chose. Donc je vous disais que j'avais inscrit mon projet sur les convergences. Donc c'est un projet effectivement aujourd'hui de luxe national qui est complètement convergent. Alors qu'est-ce que ça veut dire convergent ? C'est en partant de la question de l'image et du traitement de l'image au sens le plus large, donc l'image dans tous ses supports, dans toutes ses formes, hein, c'est l'image fixe, c'est l'image animée, c'est l'image cinématographique, c'est l'art vidéo, c'est les arts numériques. En tout cas, en partant de la multiplicité, de la diversité des supports de l'image, d'interroger les relations qu'elle peut avoir avec différents arts. Hein. Alors, les arts plastiques, le champ des arts plastiques, principalement, on verra comment. Le champ de la danse, on verra aussi comment, et évidemment une place très particulière laissée au cinéma, et pas n'importe quel cinéma, puisque notre mission concerne le patrimoine. Voilà. On est missionné pour développer une action particulière sur le patrimoine cinématographique. Alors, comment est-ce que s'articule ce projet de croisement ? Il est vrai qu'il est toujours plus difficile de défendre des projets croisés que des projets qui sont cloisonnés par discipline. Hein. Vous le savez, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que vous appréhendez régulièrement. Moi, je défends en tout cas l'idée aujourd'hui, pas seulement parce qu'on est dans une espèce de fantasmagorie sur l'hybridation où tout se mélangerait, hein, parce que pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt l'hybridation en soi, mais que néanmoins, je pense que les arts ont une porosité, se nourrissent les uns des autres, et je pense que c'est extrêmement intéressant. Le fondement, évidemment, de notre action, c'est le cinéma, et le cinéma est par excellence un art qui s'est nourri des évolutions technologiques, des avancées narratives, des avancées scénographiques, des arts qui l'avaient précédé, hein, évidemment, qu'il s'agisse du théâtre, par exemple, sur les modes de narration, qu'il s'agisse de la peinture, sur la composition, il a puisé du côté de la musique, et il continue effectivement, parce que le passage au numérique, aujourd'hui, hein, il est vrai qu'on est effectivement dans une phase de transition qui est extrêmement importante, où les supports du cinéma changent, et c'est pas simplement un support de diffusion qui change, c'est les modes de création, les modes d'appréhension qui changent, et qui permettent effectivement une porosité extrêmement importante, là encore renouvelée. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Alors comment est-ce qu'il se décline ce projet au-delà du cinéma ? La question de la danse et des images, pourquoi est-ce que j'interviens sur ce champ-là ? Bon, d'abord parce que j'ai compris que dans mon parcours que j'ai démarré dans la danse, et que en tout cas sur l'idée des croisements entre la danse et l'image, c'est l'un des croisements artistiques qui me semble les plus créatifs tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui.
Il y a beaucoup de compagnies contemporaines qui mélangent les deux,
bien sûr,
il y en a Castafiore, enfin tous les gens comme ça. travaille beaucoup sur ce mélange-là.
Alors, il y a eu déjà aujourd'hui, on voit effectivement, il est très rare de voir un spectacle où il n'y a pas d'image.
Oui.
Même, on peut dire. C'est-à-dire que l'utilisation de l'image à différentes fins. Hein. L'image, ça peut permettre de remplacer un décor, ça peut permettre d'inventer des danseurs virtuels. Évidemment, ça peut servir à ça. Mais si vous regardez, entre autres, la danse américaine qui, au XXe siècle, a été effectivement, entre la moderne danse jusqu'à la danse contemporaine française, a été là aussi particulièrement riche dans des relations avec les arts de l'extérieur, les arts plastiques et l'utilisation de l'image. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Ernst Cunningham, qui a travaillé évidemment avec un musicien, compositeur extrêmement important, Cage, bien sûr, mais aussi en utilisant toutes les possibilités de l'art vidéo. C'est-à-dire que Cunningham a eu tout au long de sa carrière, systématiquement par exemple, des captations de ses spectacles. C'est le seul chorégraphe au monde qui a fait ça systématiquement à un moment où c'était pas très très acquis, on va dire. Autant aujourd'hui, la question de la vidéodance par exemple, est très très présente, notamment en France. Pourquoi ? Parce que les chorégraphes dans les années 80, les chorégraphes français qui ont créé la danse contemporaine, qui ont fait qu'elle est devenue effectivement cette forme aussi inventive, systématiquement ont utilisé l'image. Parce que c'était effectivement, là aussi, on va dire, un enrichissement narratif, un enrichissement scénographique, au-delà de la question de garder une mémoire. Les vidéos danses que vous pouvez voir sont des vraies créations, souvent filmées par des cinéastes. Un exemple de proximité que je vous citerai aussi, c'est que la Maison de la Culture de Grenoble, avant de devenir la MC2, donc le Cargo, l'ex-Cargo, avait par exemple, dans ce projet qui est encore le projet fondateur d'André Malraux, hein, les Maisons de la Culture où tous les arts étaient présents dans le cinéma, avait non seulement un metteur en scène, non seulement un chorégraphe, c'est toujours le même, c'est toujours Jean-Claude Galota, mais aussi un cinéaste, Raoul Ruiz, et Raoul Ruiz a fait des films avec Jean-Claude Galota. Par exemple, si aujourd'hui vous voulez découvrir le travail des années 80 de Galota, les films Maman, enfin toutes ces pièces très fondatrices, Servise, qui ont fait les films. Voilà. Donc les relations ont été toujours très très complices et aujourd'hui encore, ça continue. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des chorégraphes aujourd'hui qui choisissent par exemple de ne plus travailler sur un plateau. C'est-à-dire que les chorégraphes, ils inventent des scènes en se disant qu'on n'est pas obligé d'avoir un théâtre, de l'éclairage pour danser. On va danser dans la rue, mais on peut aussi danser sur le net. Et il y a des expériences extrêmement intéressantes sur Internet, de spectacles qui n'existent que sur le net, hein, par exemple, ou sur l'iPhone. Hein, et un couple de chorégraphes, qui sont des gens qui ont œuvré dans les années 80 déjà, donc qui sont plutôt jeunes, qui s'appellent Norbert et Nicole Corsino, N+N Corsino, qui sont des gens absolument passionnants, qui viennent d'inventer une application pour l'iPhone qui s'appelle Sois-moi, et que je vous invite à aller regarder. Parce que moi, j'ai aucun fantasme technologique, vraiment. J'estime qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir systématiquement des rallonges technologiques de plus en plus petites. Que néanmoins, si à un moment, ce qui est mis en jeu, c'est la question de la sensibilité, la question du mouvement, la question de la transmission, ça me parle. Et là, en l'occurrence, Sois-moi, c'est vraiment une application sur la danse. Il est question de danse, effectivement, et ça, c'est assez passionnant. En tout cas, c'est des relations qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes. Si vous regardez même aujourd'hui des pièces chorégraphiques, si vous regardez le travail par exemple de Jean-Marc Matos, son écriture chorégraphique, elle est complètement nourrie de l'esthétique du jeu vidéo par exemple aussi. Voilà, donc c'est pour dire que les porosités, elles sont vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement intéressantes. Donc nous, cet axe-là, on va l'aborder en invitant des chorégraphes qui travaillent avec l'image, avec l'idée non seulement de susciter des rencontres, mais aussi de créer, de produire autour de ces passions. Premier axe, c'est celui-là. Le deuxième axe qu'on développe, alors je vais vous faire passer d'ailleurs des petites paires de vœux qui vous donnent quelques éléments programmatiques, qui est plus simple seulement, j'ai quelques programmes du mois, mais il n'y en a pas énormément, je vous en parlerai tout à l'heure. Sur la deuxième orientation, c'est donc une orientation qui est plutôt dans le champ des arts plastiques, et qui interroge effectivement la place de l'image. Alors quel type d'image ? Ça peut être l'image photographique, hein, puisque je pense qu'il est extrêmement important qu'on travaille sur la photographie, c'est-à-dire qu'on revienne à la question non seulement de la fixité, c'est-à-dire à un moment dans une temporalité extrêmement différente, mais aussi dans le choix que font certains artistes aujourd'hui de travailler sur ce médium, et je vais vous montrer effectivement l'artiste avec lequel nous travaillons aujourd'hui dans le cadre d'une résidence. L'autre axe, c'est comment le cinéma, comment l'art contemporain plutôt revisite le cinéma, quels sont les échos qui se créent. Donc là aussi, on est évidemment dans la question de la relation. Et le troisième axe des expositions, c'est la question de l'illustration, donc l'illustration jeunesse, et de ses relations avec le cinéma d'animation. Hein, parce qu'à Valence, il y a un pôle d'animation qui est extrêmement conséquent autour de la société Folimage. Le troisième axe donc important de mon projet, je l'ai appelé le cinéma un patrimoine actualisé. Je vous disais tout à l'heure qu'on a une mission importante sur le patrimoine du cinéma. On est financé pour raconter l'histoire du cinéma, mais qui me semble aujourd'hui une approche intéressante, c'est celle que moi je défends en tout cas, c'est de dire que, avec un public, que ce soit des jeunes gens ou des moins jeunes, si on veut raconter l'histoire du cinéma, il faut partir de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui permette un point d'ancrage au départ, on aura beaucoup de mal à leur parler, encore de Charlie Chaplin, je veux bien, mais peut-être d'aller montrer des choses un petit peu plus difficiles, ça me semble une vraie gageure. Et je pense que les choses prennent sens si elles ont un point d'ancrage aujourd'hui. Donc un exemple, j'invite le 9 février un jeune plasticien qui s'appelle Laurent Pernaud, qui est un photographe, plasticien, qui sort de l'école du Frénois, donc l'école des arts visuels contemporains, qui a été présenté dans plusieurs expositions importantes, notamment dans La nuit des images. Et Laurent Pernaud travaille aujourd'hui en utilisant des médiums complètement contemporains. C'est un artiste qu'on va qualifier d'art numérique, donc c'est de l'installation numérique principalement ce qu'il fait, de l'animation 3D. Et dans tout ce que fait Laurent, systématiquement, il y a un travail sur ce qu'il y a derrière les couches et ce qu'on peut raconter de l'histoire. Donc il rend notamment hommage au cinéma et notamment à Émile Reynaud, précurseur du cinéma, le fondateur du Praxinoscope, avec une œuvre qui s'appelle Chronorama. Donc Laurent Pernaud, c'est l'image même d'un artiste aujourd'hui qui n'a pas 30 ans, hein, donc très jeune artiste, qui a déjà une carrière d'ailleurs internationale, mais qui, dans son travail aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, nous raconte une histoire sur l'image en mouvement et l'histoire des images en mouvement, et resitue en tout cas son travail artistique aujourd'hui dans une réflexion qui est à la fois métaphysique et anthropologique. En l'occurrence, il l'a appelé Survivance des Lucioles, en hommage à Georges Didier Huberman, hein, dont vous avez peut-être lu le dernier ouvrage. Donc c'est vrai que dans la réflexion cet automne, on est assez vite arrivé sur l'idée de faire référence à Didier Huberman. Il l'a accepté qu'on le fasse, donc c'est en plus avec son accord qu'on le fait. Et je trouve que c'est intéressant de se dire aussi que l'action culturelle, elle est quand même liée à l'histoire intellectuelle et l'histoire de la réflexion. Enfin, moi, ça prend sens si on travaille comme ça. Donc à partir du travail de Laurent Pernaud, donc un créateur contemporain, on va dans la deuxième partie de la soirée vernissage faire une soirée avec les archives françaises du film pour revisiter l'histoire des débuts du cinéma et notamment le travail d'Émile Reynaud. Hein, vous voyez un peu le principe. C'est-à-dire, on part de quelque chose d'aujourd'hui, effectivement, pour remonter l'histoire. Donc là, Émile Reynaud, c'est un film un peu grossier, je dirais, en l'occurrence, hein, parce que tout le travail de Laurent Pernaud n'est pas en référence à Émile Reynaud. Mais il y a néanmoins ça, et ça, je trouve que c'est intéressant, de voir comment les artistes appréhendent aujourd'hui les choses, parce que je pense que face à des jeunes gens, hein, il faut partir de là où ils sont, c'est-à-dire il faut partir pas de leur culture et de leur pratique uniquement, parce que ça sera un peu démagogique, mais se dire que si on veut nouer un dialogue, il me semble qu'il faut partir de là. En tout cas, moi, je défends ce point de vue-là. Voilà, ça va, je vais pas trop vite ? Si ? N'hésitez pas à me freiner. Et puis à m'interrompre si vous trouvez que ça mérite précision. Ce que je vais vous proposer, une fois que je vous ai présenté à peu près le lieu, c'est de vous montrer un outil, qui est un outil important, comme vous avez peut-être vu, qui est un outil national, de vous présenter un peu d'autres outils mémoire qu'on a pu fabriquer comme ça, et puis de vous montrer surtout le travail qu'on fait actuellement avec un artiste en résidence, de voir comment est-ce qu'on peut appréhender cette question, hein, de sans arrêt créer des passerelles entre l'aujourd'hui et l'hier, ou l'hier et l'aujourd'hui, parce que le but du jeu à un moment c'est de faire ça comme ça. Et l'expérience que je vais vous proposer, elle n'est pas cinématographique, elle est photographique. Mais on va parler un peu de cinéma, parce qu'on va parler d'abord d'école et cinéma, et des dispositifs que vous connaissez peut-être ou pas. Non ? Tout le monde connaît ? Non ? Donc justement, je vais faire une... Alors, qui connaît d'ailleurs école et cinéma ? Parce que ça peut être intéressant si vous apportiez votre... Ouais. Qui est en majorité des gens. Est-ce que vous pouvez aussi me préciser quel est votre champ d'intervention ? Vous êtes enseignant, conseiller pédagogique, inspecteur un peu tout, le principe étant aussi. Comment ?
Conseiller pédagogique.
On fait toujours si vous voulez.
Conseiller pédagogique, musique.
D'accord, intéressant. Bah oui, parce que le film, alors là,
prof d'histoire, il veut faire.
Formatrice IBFM, ouais. Premier sur deux.
Conseiller pédagogique art visuel, premier degré.
Formatrice IBFM, premier degré de musique.
D'accord. Enseignant-chercheur art visuel.
Où ça ?
IBFM.
D'accord. Conseiller pédagogique musique.
Ah, la musique est très présente. Ouais, c'est bien. Je peux parler de musique.
Je suis en art visuel à la fois à l'UFM et dans un collège.
D'accord.
Historienne de l'art, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
D'accord. Formatrice art plastique, UFM Montpellier.
Conseiller musique.
Conseiller musique.
C'est bien, je vous parle d'autre chose.
Vous avez promis de nous parler un petit peu de musique.
Conseillère pédagogique art visuel.
D'accord. Même chose. Conseiller pédagogique généraliste.
Conseillère, conseillère art visuel.
Formatrice histoire géographique UFM.
Conseillère art visuel.
Formatrice UFM histoire en Bourgogne.
Moi, je chargée de recherche en lettres. Bien sûr. Formatrice UFM premier degré littérature de jeunesse.
Ah, c'est bien parce que vous êtes un groupe en fait très très diversifié. C'est bien, je pense, d'avoir des gens qui arrivent avec des horizons divers, au monde des attentes aussi assez diverses. Vous parlez de musique, oui, un petit peu. Je vais poser la question. Vous imaginez bien que dans mon projet sur les relations entre les arts, je ne peux quand même pas nier, évidemment, les relations entre la musique et le cinéma, qui sont là aussi, on va dire, extrêmement, extrêmement fortes. C'est vrai que j'ai choisi de les aborder, non pas de front, mais de manière un petit peu marginale, parce que, en définitive, c'est plus abordé que la question danse image. Hein, et là, ça, je m'en doutais un petit peu, mais il y a confirmation, là, ces premiers mois, que sur la danse et l'image, on m'a repéré de toute l'Europe, là, donc c'est qu'il n'y a quand même pas grand monde qui doit vraiment travailler sur cet axe-là. Mais néanmoins, la musique, on va poursuivre une action qu'on a menée, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup travaillé sur le cinéma muet. Quand on a travaillé sur le cinéma muet, on a travaillé sur l'accompagnement des films aussi, bien évidemment. Alors à la fois avec des productions, hein, Mabus par exemple, c'est une production de l'Intercontemporain, donc d'emblée c'était des grosses productions, hein. L'Intercontemporain accompagnant l'intégrale des Mabus, donc c'était une grosse production qu'on avait fait avec le cinéma muet. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir effectivement là aussi comment la forme de ciné-concert évolue, à la fois en interrogeant l'interaction du musicien, voire du comédien, parce qu'il y a de plus en plus de formes aujourd'hui de ciné-concert qui laissent place à des comédiens, qui interviennent d'une manière ou d'une autre. Ça devient des formes de cinéma qu'on va qualifier d'interactifs. Alors en même temps, c'est pas très juste, la notion, elle est un peu abusive, la notion de cinéma interactif, hein, parce que le cinéma interactif, de fait, il n'existe pas encore aujourd'hui, même si on en rêve. Vous imaginez ce que ça veut dire, hein, le cinéma interactif, c'est qu'on pourrait agir sur la totalité du corpus qui constitue un film, c'est-à-dire à la fois les plans, à la fois la bande-son, revoir le montage, revoir la temporalité. Aujourd'hui, quelques artistes, j'ai invité par exemple Thierry Fournier, qui a inventé une table de montage qui permet de se promener dans les rushs du film et de remonter le film, mais c'est pas encore du cinéma interactif, hein. On va dire qu'il y a encore des choses qu'on n'est pas parvenu à faire. En tout cas, néanmoins, la question de l'interaction de la place du musicien, elle est vraiment posée dans des formes qui sont qualifiées comme telles. Qu'est-ce qu'un musicien apporte au film? Qu'est-ce qu'un bruiteur apporte? Comment les relations se nouent? Ça, c'est un axe qu'on va aborder. On va travailler effectivement aussi bien autour du travail de Norman McLaren, hein, qui est un cinéaste d'animation canadien, par exemple, qui a été l'un des inventeurs de techniques assez plastiques, qui sont celles du grattage sur pellicule, et qui autorisent, on va dire, des créations sonores et musicales qui sont très intéressantes. Donc l'an prochain, on va travailler notamment sur Norman McLaren. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment la musique aussi peut laisser place à d'autres interventions, et notamment graphiques. C'est qu'il y a aussi aujourd'hui des gens dans les ciné-concerts qui interviennent sur la pellicule elle-même, avec de l'intervention qui est là, graphique. Donc il y a tout un champ d'expérimentation qui est en train de se mettre en place là, qui est assez intéressant. Hein, donc c'est un axe évidemment que je n'ai pas abordé premièrement, mais qu'on va déployer dans ces prochaines années, parce qu'effectivement on ne peut pas de toute façon aborder le cinéma sans aborder la musique déjà, et que dans la relation spectacle-vivant, ça me semble extrêmement intéressant. Donc quand je dis on va présenter des choses, c'est qu'à la fois on présente des formes de spectacle, hein, soit chez nous, soit sur les plateaux de la ville de Valence, puisqu'il y a un lieu de théâtre à Valence, mais on accompagne systématiquement toutes les actions par des ateliers pédagogiques. Donc je vais vous présenter les ateliers pédagogiques qu'on a pu faire, parce que pour moi, il est clair qu'il y a une articulation aussi essentielle à trouver à la diffusion, c'est celle de l'éducation artistique. Pour moi, c'est premier. il faut systématiquement accompagner, pas seulement dans l'optique de, une optique de fréquentation, mais je pense que notre mission d'abord est celle de former les spectateurs, je pense. Alors, dans... Oui, une... Non. Donc, une action que nous menons, mais que nous ne sommes pas les seuls à mener, c'est École et Cinéma. Donc, si les gens connaissent, je vais aller assez rapidement. École et Cinéma, c'est une opération, un dispositif national, comme on le dit maintenant, qui a été mis en place par le CNC en 1994. Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma, c'est donc notre organisme de tutelle à nous, Cinéma, qui est un organisme, qui a un établissement public rattaché au ministère de la Culture, mais qui est un petit peu particulier, puisque le CNC a une autonomie financière liée au fonds de soutien. Vous savez, quand vous allez au cinéma, il y a une partie du prix de la place de votre billet qui va abonder dans une enveloppe qui va nous permettre après de faire des films, mais aussi d'avoir des salles de cinéma en état aussi intéressant. Donc le fonds de soutien permet au CNC d'avoir des financements pour de l'action culturelle. Il y a encore au sein du CNC une action culturelle avec une série de dispositifs, le terme n'est pas très joli, mais c'est celui qui a été choisi, des dispositifs de sensibilisation au cinéma qui couvrent tout le champ éducatif, donc de la maternelle jusqu'à la terminale. Hein. Donc, ce qui sont des dispositifs de sensibilisation, école, collège, lycée en cinéma, qui dans l'ordre ne se sont pas créés comme ça, puisqu'il y a eu collège au cinéma d'abord, puis école et cinéma, puis lycée en cinéma. Et que Collège de cinéma au départ avait été créé par les exploitants de salles de cinéma qui étaient très inquiets dans les années 80 de la désaffectation des jeunes gens, des jeunes adolescents. Et s'étaient dit, oh là là, il faut trouver quelque chose pour les faire revenir. Et ils étaient allés assez stratégiquement voir les conseils généraux en leur disant, il faut que vous nous aidiez, vous allez donc financer une opération qui va s'appeler Collège de cinéma. Et depuis 20 ans, l'opération est toujours financée par les conseils généraux, entre autres, et par l'État. Mais c'était une opération qui était surtout dans cet objectif hein, de ramener des jeunes gens dans une salle de cinéma pour leur montrer des films qu'ils n'iront pas voir tout seuls. C'est-à-dire que tout l'aspect d'accompagnement éducatif derrière n'avait pas vraiment été pensé hein, pour cause. Donc quand École et Cinéma est arrivée, 2 ans ou 3 ans plus tard, évidemment, École et Cinéma a tiré une réflexion de l'expérience de Collège de Cinéma en se disant, bah, tiens, il faut nourrir un peu peut-être cet aspect de formation. Et d'emblée, il y a eu un partenariat qui a été créé entre le CNC et la direction des écoles. Partenariat qui a été créé en se disant, il faut qu'on arrive d'abord à créer un dispositif qui soit national, c'est-à-dire qu'il puisse effectivement toucher tous les enfants de France. On en est loin, je vous rassure tout de suite, on en est loin, même 15 ans après. Néanmoins, l'ambition était là, et de se dire qu'on allait accompagner le fait de voir des films, de formation pour les enseignants, mais aussi de documents pour les enseignants aussi, hein, et puis des documents pour les élèves. Donc l'idée, évidemment, c'est une édition papier, c'est assez classiquement un petit cahier de notes qui est fait, qui est, à mon avis, extrêmement ambitieux. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous, oui, vous avez déjà vu, voilà, l'outil sur lequel les enseignants nous reprochent l'absence de prise souvent. Hein, vous avez, pour ceux qui l'ont usité, donc quelques remarques à faire sur... Non, je vous laisse regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Ce sont des documents pédagogiques qui ont été vraiment faits avec beaucoup d'ambition. En disant que l'idée, ce n'était pas de réunir des recettes pour les enseignants, mais qu'il fallait les nourrir, hein, les nourrir, parce que les enseignants avaient besoin aussi de prendre connaissance un peu de ce qu'était le terreau cinématographique, et leur offrir quelques chemins qu'ils allaient appréhender eux-mêmes. Au fil du temps, je ne suis quand même pas sûre que les documents ne méritent pas de la médiation, on va dire.
Hein ? Non, parce que, enfin, pour avoir lu, par exemple, celui sur le voyage du Chihiro, on est à un degré de critique de cinéma, déjà, c'est un expert.
Université. Chihiro, c'est l'univers des Joubert Laurent V qui l'a fait.
Hein. Donc c'est passionnant à lire, mais après je pense que l'enseignant est muni pour basculer totalement. Ça. Totalement. Donc ça rate un peu son but. Quoi.
Alors
il y avait aussi d'autres choses, il y avait des plaquettes plus fines.
Il y a une plaquette, oui.
La carte postale pour les enfants. Alors, le principe du cahier de notes pour les enseignants, c'est toujours le même. Alors, je n'ai pas ramené de carte postale, mais enfin, le principe de la carte, c'est plutôt une carte mémoire en 3 parties, voilà. Donnée aux enfants.
C'est pas mal.
C'est plus utilisable. Alors, c'est plus utilisable en même temps.
C'est plus utilisé, en tout cas.
Oui, c'est plus utilisé. Moi, j'ai été très longtemps au conseil d'administration des enfants de cinéma. J'ai même été longtemps la vice-présidente de l'association. Et c'est vrai que sur les cahiers de notes, j'entendais bien l'ambition qui pouvait être apportée. Et je la respecte aussi en disant qu'à un moment, c'est intéressant qu'il y ait un travail éditorial comme tel. Mais en même temps, je vois aussi la diversité des champs qu'un enseignant a à couvrir, le peu de temps qu'il peut allouer aux choses. Je dis, mais aidons-le, on n'est pas là pour qu'effectivement ils se sentent démunis face à un outil dont ils ne savent que faire et qu'ils ne l'utilisent pas.
Est-ce qu'il y avait confusion sur l'objectif de ce document? Moi, je trouve ça remarquable. Je pense qu'il y avait une confusion sur le fait que ce soit un outil transférable, en tout cas qui aiderait l'enseignant à transférer l'analyse du film avec l'élève.
Mais je ne sais pas si c'était confusion, je crois que c'était
une volonté.
Un parti pris, voilà, c'était ces deux. Un parti pris, complètement. Enfin, ça l'est toujours, hein, d'ailleurs, entre nous.
Mais en même temps, je veux dire, ça dépend des documents pédagogiques, il y en a vraiment certains qui sont plus abordables que d'autres, ça dépend des films. Mais en même temps, ouais, on élève un peu, mais je pense qu'après l'enseignant, s'il a une méthodologie pour aborder les films, il a compris comment après on peut se servir de ça, pas vraiment, et aller chercher ailleurs aussi. Hein,
c'est... Oui. Mais l'idée en tout cas, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait quand même un go-between qui se fasse. Donc après, on va dire que c'est aux partenaires sur le terrain, aux salles de cinéma, aux conseillers pédagogiques, aux inspecteurs de le faire. En l'occurrence, quand on monte des formations autour d'école et cinéma, on les fait toujours en utilisant ces documents-là. Sauf qu'on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui qu'à la fois dans la pléthore des cahiers des charges qu'on va mettre aux enseignants, hein, avec effectivement un champ de compétences qui est de plus en plus étendu, le temps peut être alloué à un travail spécifique sur un art, surtout aujourd'hui sur un art, qui se trouve un petit peu réduit. Et pour peu qu'on ait un enseignant qui soit dans une zone rurale très éloignée, qui ne puisse pas venir facilement en formation, le problème c'est qu'il est un petit peu tout seul. Voilà, après il a évidemment...
Quand les formations existent...
Mais elles peuvent exister.
Non mais déjà, il y a pas mal de départements, il y a des provisionnements, mais il n'y a pas vraiment de formation.
Alors, je vais vous donner
un exemple. C'est le problème de l'éducation nationale, c'est pas le problème d'un fonds du cinéma, mais c'est après...
Non, mais attendez, sauf que moi, ce que j'ai réussi quand même à obtenir en Drôme depuis un certain nombre d'années maintenant, alors, je ne sais pas si on a vu des inspecteurs, l'académie, plus cinéphiles que d'autres, oui, certainement.
Oui, oui,
ça joue, hein, mine de rien. On a à l'heure actuelle un jumelage avec l'inspection académique de la Drôme, et c'est le luxe qui en charge toutes les formations du premier degré sur l'image. Donc c'est globalement, voilà, donc je suis très contente. Alors j'ai formé l'année dernière pas moins de 1000 enseignants dans le cadre d'animation pédagogique, et cette année encore, ça sera un petit peu en deçà, je pense qu'on en aura 750. Donc formé sur quoi? Sur l'histoire des arts cette année, évidemment, c'est notre sujet, mais c'est un prétexte, l'histoire des arts, pour parler évidemment aussi de l'histoire du cinéma, sachant que le cinéma... se situe de manière un petit peu particulière dans l'histoire des arts. Le cinéma a toujours refusé d'être mélangé, hein, dans l'histoire des arts. Donc on approche, c'est toujours considéré comme un art un peu à part. Mais moi je revendique que l'histoire des arts, effectivement, elle doit intégrer le cinéma et qui prend sens s'il s'intègre à la danse, à la musique et aux arts visuels, comme on vient de le dire, hein, complètement. Moi je défends cette idée-là. Donc toutes les formations images dans le département, en gros, c'est nous qui les assurons. C'est-à-dire qu'on va aussi bien aborder la question photographique, aborder la question art plastique, aborder la question du son, parce qu'on travaille beaucoup sur le son, effectivement, en fonction de propositions que je fais à l'instituteur de l'académie. Très sincèrement, il me laisse faire les propositions que je veux. Donc tout va bien, mais en même temps tout va bien, il sait très bien aussi, bon, outre l'expertise qu'on a développée, je pense, au luxe, qu'on s'appuie sur le travail assez exigeant d'école et cinéma, parce que, mine de rien, école et cinéma, qui mérite peut-être de la médiation, a quand même effectivement cette exigence première qui est de dire on choisit des films pour raconter l'histoire du cinéma. On en revient au sujet du jour. Hein. L'idée quand même du catalogue de films, hein, le catalogue aujourd'hui c'est 55 films, c'est aussi de prendre des films qui sont des films repères dans l'histoire du cinéma. Non pas pour faire une historiographie, c'est pas notre rôle, on n'a pas le temps, mais de donner des repères. Hein, pour qu'un enfant d'aujourd'hui qui voit une création burlesque ou même qui voit Avatar sache qu'Avatar, par exemple, peut être nourri de toute l'histoire du cinéma américain. Enfin, bien évidemment, tout fonctionne sans arrêt comme ça. C'est du recyclage permanent, le cinéma. Hein, on peut prendre sur tous les films. Donc l'idée, c'est pas tant de faire des enfants des spécialistes de l'histoire du cinéma, parce qu'on n'a pas assez de temps, mais de leur donner des repères, simplement qu'ils puissent situer où sont les choses, hein, sans mettre des échelles de valeur, il ne s'agit pas de moraliser les œuvres, mais de les situer dans le temps. Déjà rien que ça, de situer ce qui se fait sur les formes d'écriture, sur les formes techniques, la question par exemple du passage noir et blanc, la couleur, ou le passage du muet à la couleur, sur des choses comme ça, de leur donner des repères. Donc, école et cinéma, ça visait à ça. Ça visait à constituer un corpus, un catalogue de films, pour permettre qu'au cours d'une scolarité primaire, maternelle, enfin en dernière année maternelle jusqu'au primaire, les enfants puissent se dire à peu près que dans le cinéma hollywoodien dans les années 50, il y a pu avoir des formes, que dans les années 20, il y a eu d'autres formes, et notamment burlesque, parce qu'on travaillait quand même beaucoup sur le burlesque avec eux. Et que le cinéma d'aujourd'hui a d'autres formes qui sont plutôt des formes d'animation contemporaine, par exemple, mais qu'ils aient comme ça une forme de repère. Là aussi, non seulement en ayant une visée patrimoniale, mais aussi en montrant des formes d'aujourd'hui. Parce que si on ne veut pas ghettoiser nos actions, il faut effectivement être aussi en prise sur ce qui se fait aujourd'hui. Donc en écho à école et cinéma, hein, puisque je parlais de ça, nous, le CNC, nous a demandé de mettre en place un outil. Qui soit un outil. Alors, l'idée, ce n'était pas de faire un outil plus simple, hein, plus adapté, mais l'idée, c'est en tout cas d'utiliser un support actuel, qui est celui du net, pour permettre non seulement développer, on va dire, les aspects très particuliers du net, c'est-à-dire l'aspect audiovisuel et interactif, mais aussi de mettre en réseau. C'est-à-dire, moi, ce que je défends, c'est qu'un outil comme le CIFIMAGE, qui a maintenant 10 ans, qui est une base de données conséquente, hein, puisqu'il y a presque 400 films qui sont réunis, vous allez voir comment, donc autant d'auteurs, c'est aussi l'occasion de mutualiser les expériences qui sont menées dans la classe, par exemple, d'ailleurs, qu'il y a une rubrique qui le permet. C'est aussi l'occasion de travailler sur quels seront les outils demain, voire même aujourd'hui. Donc, par exemple, dans les ateliers de réalisation, on travaille quasiment plus qu'avec des téléphones portables. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté d'acheter des caméras il y a 2 ans, parce qu'on n'a plus besoin de caméras aujourd'hui. On peut travailler avec des nouveaux outils. Et que cette question-là de qu'est-ce qu'on fait quand on fabrique des images aujourd'hui avec des jeunes gens, notamment avec des enfants, c'est une question essentielle. Parce que pour moi, montrer des œuvres, ça a du sens aussi à un moment s'il y a ce passage. C'est-à-dire, si on passe par la pratique. Le geste artistique, il faut pouvoir l'appréhender, parce que sinon, effectivement, bon, ça reste un petit peu théorique. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, un enfant ait un appareil photo dans la main, enfin, un appareil photo ou une caméra, n'importe quoi, pour qu'il ait pu délimiter son champ, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que je mets dans mon champ et qu'est-ce qui reste hors champ, ne serait-ce que ça. Je pense que ça, c'est vraiment central qu'il ait pu le faire. Donc la question de la pratique, j'en parlerai tout à l'heure. Donc cet outil, en tout cas, il vise à être utilisé par des enseignants. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je ne peux rien lire là, qui puissent être utilisés directement par des enseignants. Donc, on a expérimenté cette année des modules qui soient des modules d'analyse clé en main. C'est-à-dire que l'enseignant dans sa classe, qui n'a rien d'autre comme outil et qui ne connaît pas le cinéma, puisse l'utiliser comme tel. Alors, je vais vous en montrer un de ces modules. Ça ne concerne pas École et Cinéma, mais ce n'est pas grave. Hein, vous êtes grand, donc vous avez... C'est un film lycée au cinéma qui est la cérémonie. Hein, c'est un module qu'on a mis en place. Donc c'est des flyers qu'on a édité l'an dernier pour les 20 ans de collège de cinéma, justement. On reviendra sur le site. Alors, les ateliers. Je disais que pour moi, il était vraiment important qu'il y ait un vrai rapport au-delà de celui de spectateur, quelque part un peu passif, parce que peut-être notre salle de cinéma, on est un peu passif. D'accord. D'accord. Et il semble important qu'il y ait un rapport à la pratique. Alors qu'est-ce que c'est que le rapport à la pratique? C'est déjà des ateliers d'analyse, parce que je pense intéressant déjà d'être acteur dans un atelier où on va décrypter le son, par exemple. Dès qu'on travaille beaucoup sur la question du son, et le son, c'est une façon d'aborder des films. Mais on peut être acteur aussi en travaillant sur le montage, parce que le montage, qui est un des gestes essentiels du cinéma, hein, c'est celui qui compose à la fin, on peut le faire. L'atelier montage qu'on fait par exemple, c'est avec un cinéaste qui nous ramène ses propres rushs. Donc c'est un travail sur des rushs que les adolescents, en fait, avec des adolescents, n'ont pas tourné, mais qui vont avoir un geste de création parce que, évidemment, l'addition de 1 plus 1, elle est toujours supérieure à 2. Hein, vous savez, et ça donne des choses différentes. Alors pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi des ateliers sur la photographie, ça je vous l'ai dit. On fait des ateliers en cinéma d'animation, puisqu'on est à Valence et qu'on a, on va dire, sur place des acteurs qui nous aident beaucoup. Et on fait des ateliers qui sont thématiques, qui sont sur la musique ou sur la question du voyage, sur des choses un petit peu diverses et variées. Donc on a chaque année une proposition d'atelier qui est assez conséquente, qui est présentée dans cette petite plaquette. Vous allez partir avec plein de choses. Voilà, donc qui présente à la fois le choix des films qu'on montre, hein, donc c'est une partie des films d'école et cinéma, mais moi je montre un film différent chaque semaine, à la fois parce que pour montrer la diversité un peu du continent cinématographique, il faut l'appréhender par plein de chemins possibles. Que montrer un film à un enfant de 2 ans et montrer un film à un enfant de 10 ans, c'est pas du tout la même chose. Ça peut être le même film, mais souvent c'est quand même pas le même film, on est bien d'accord. Que j'aime beaucoup tester des choses avec les enfants. Alors cette semaine, par exemple, j'ai Boris Barnett, la jeune fille au carton au chapeau. La seule en France à montrer ça, je pense, aux enfants. Mais moi, j'aime beaucoup le cinéma russe, et notamment le cinéma des années 20. Boris Barnett, auteur qui est totalement méconnu, je pense, aujourd'hui, a comme ça réalisé quelques petites perles poétiques. Comment ?
Je dis cette année, il l'aura pour le cinéma, pour ce film-là.
Oui. Ah, ils l'ont intégré parce que je les ai poussés à l'intégrer, oui.
C'est une partie de la programmation de cette année.
Oui.
Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont le voir.
Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui le prennent. Non, c'est vrai que l'École et Cinéma l'a intégré. J'ai soumis avec beaucoup d'insistance deux films à l'École et Cinéma. C'est La Jeune Fille et Boudu Sauver des Eaux. Et j'ai quand même eu quelques retours de ma part en me disant « Mais quelle audace, toi, tu peux faire des choses comme ça !» Mais on ne peut pas les montrer n'importe où. Moi, je suis persuadée que si La Jeune Fille au carton à chapeau, un petit poème, il suffit d'y entrer, c'est magnifique. J'expérimente parce que vu le volume de films qu'on a, moi je peux me permettre d'expérimenter de choses. Après, effectivement, c'est vrai que quand les enfants sont dans une zone où l'organisation d'une séance est plus compliquée, où ils vont 3 fois par an au cinéma, c'est vrai qu'il vaut mieux que tout se passe au mieux, c'est-à-dire que les enfants ne repartent pas avec une déception. Donc ça c'est le film de la semaine. C'est le film de la semaine, mais nous, on parcourt toute l'histoire du cinéma, et c'est principalement l'axe que j'ai choisi, par ailleurs, l'animation. Donc, je vous laisse regarder un petit peu ça, vous allez voir donc, ce qu'on fait cette année, pour les enfants, pour les petits. On fait la même chose pour les adolescents, mais je ne vous ai pas ramené la plaquette, parce que j'étais un petit peu chargée, là. Donc, les ateliers, l'idée des ateliers, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est de les faire fabriquer, mais c'est aussi l'idée de partager, à un moment, parce que si on a appréhendé un geste, si on a pu un petit peu toucher les choses, c'est bien pour pouvoir les partager à un moment avec d'autres. Donc on fonctionne par un dispositif de jumelage que vous pouvez connaître, j'imagine, où on organise des séances de restitution, où tout le monde vient présenter ce qu'il a fait. Donc c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans les réalisations, il y a des choses vraiment très très diverses et variées. Je parlais tout à l'heure du sténopé par exemple, puis en photographie avec des enfants et notamment des petits, CE2, on travaille sur le sténopé. Pourquoi ? Parce que le sténopé, ça permet de travailler sur une notion simple, qui est effectivement comment est-ce que la lumière va aller laisser sa trace sur un papier photographique, mais que pour comprendre ça, il faut avoir compris ce qu'il en était du temps, qu'est-ce que ça veut dire du temps de pause, c'est quand même une des notions vraiment importantes, qu'est-ce qu'il en est de là où je place mon sténopé, où va être l'ouverture, donc des notions qui sont des notions de physique aussi importantes à comprendre comme telles, mais qui en même temps dans le rapport après à la photographie, à ce qui est rendu, permettent un passage à l'acte aussi par le système du développement tout simplement des sténopés. Donc, oui.
Sur le site image, est-ce qu'il y a des extraits de films?
Oui, c'est ce que je veux vous montrer.
Parce que pour y être allé, j'ai eu l'impression que j'ai eu du mal à trouver des extraits de films.
Alors on va voir. Si, alors c'est pas systématique parce que le site image, on...
Les séquences
analysées. Comment?
Dans les fiches ou les séquences sont analysées, mais ça.
Alors, pour tout vous dire au départ, vraiment ça ne fonctionne pas. Donc l'idée au départ, il était. Au départ, c'était une base de données textuelle. Quand il a été créé en 99, le site image, le CNC avait en tête de ne plus éditer de documents papier, tous. Il voulait les supprimer. C'était dans un principe d'économie de se dire on va supprimer le papier, on va virtualiser et on crée un site. C'était aussi simplement que ça. Donc, le modèle qu'on a pris pour créer le site, c'était celui des documents papier. On s'est dit on va refaire la même chose sur un autre support, point la ligne. Bon, au fil du temps, d'abord les documents papier sont toujours là, donc moi je revendique l'idée qu'on travaille en complémentarité, qu'il n'y a pas de raison de faire la même chose en papier et sur le net. Mais sur la question de l'utilisation des séquences, il y avait un frein juridique quand même. C'est-à-dire que vous pouvez bien imaginer que les distributeurs de films ne voyait pas d'un bon œil, même il y a 5 ans, le fait qu'on intègre des photogrammes, et Dieu sait qu'une petite photo, je vais vous dire, vous ne pouvez absolument pas l'utiliser, parce que ça, il y a une espèce de fantasme de l'utilisation du photogramme qui est incroyable, mais l'utilisation de la séquence, très sincèrement, c'est la première année l'année dernière que je n'ai pas payé de droit pour des séquences vidéo. Première fois en 2008. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement récent. Donc, ce qu'on a...
Vous avez utilisé ça...
Non, 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 j'utilise ça mon portable. Donc, c'est là aussi où on voit que les choses évoluent. Et donc, effectivement, cette année, on a mis en place non seulement des séquences. Alors, le fait est qu'on ne peut pas les mettre en place sur tout le corpus, parce que je vous dis qu'on a à l'heure actuelle pas loin de 400 films. On ne peut pas remonter sur tous les films aujourd'hui. Mais on a intégré pour l'année scolaire là, qui est en cours des séquences pour tous les nouveaux films qui sont arrivés au dispositif. Et on a expérimenté, c'est ce que je vais vous montrer, un module d'analyse autour de la cérémonie. En fait, je vous montre la cérémonie, on l'a expérimenté sur plusieurs films. Mais celui-là, il me semble qu'il est pertinent, mais on va en parler, vous allez me donner votre avis. L'idée, en tout cas, c'est que pour la prochaine rentrée scolaire, on est en train de travailler avec le CNC sur une vraie volonté de mettre en place des modules d'analyse autour de nous. C'est-à-dire qu'effectivement, de faire disparaître de plus en plus l'aspect écrit, sur le site pour n'avoir que des modules audiovisuels, sonores, parce que moi je tiens beaucoup au travail sur le son, et audiovisuels. Et donc de fait, en fonction des films que vous allez chercher, vous n'allez pas trouver nécessairement la séquence. C'est-à-dire que là, par exemple, les enfants de cinéma me demandent d'intégrer toutes les séquences qui sont dans les cahiers notes. Vous avez vu que dans le cahier notes, il y a une séquence, il y a une séquence. Et c'est vrai que souvent la difficulté, si vous travaillez un jour en formation ou directement dans une classe, c'est que vous n'avez pas accès nécessairement à la vidéo. Vous n'avez pas accès au droit de la vidéo en plus nécessairement, et que ben voilà, ça va être beaucoup plus simple, ça sera directement sur le site. Vous aurez le texte d'analyse dans le cahier de notes. On complétera, nous, je ne sais pas comment encore, parce qu'on est en train d'y travailler, mais en tout cas, la séquence, elle sera sur le site. Donc vous pourrez la télécharger légalement, parce que évidemment, tout ça, c'est fait légalement.
On pourra télécharger les...
oui, la séquence.
Et est-ce que vous imaginez des extraits qui seraient, par exemple, là, je vois autour de l'homme qui rétrécit, il y a plusieurs. Une entrée gigantesque minuscule, par exemple, est-ce que vous imaginez d'avoir des entrées comme ça avec plusieurs extraits de films en fonction d'entrées thématiques ou autres?
L'ambition qu'on a, mais on est vraiment au tout début du travail, c'est l'idée non plus de faire des analyses film par film, parce qu'au bout d'un moment, je trouve ce principe additionnel, il a ses limites, mais moi je défends l'idée qu'on travaille de manière transversale sur des formes. Ce que vous dites, par exemple, pour moi, c'est une figure qui peut servir à traverser l'histoire du cinéma, l'histoire des arts. Hein. C'est la figure par excellence, enfin, de Alice, on va dire, à l'homme qui rétrécit, on est vraiment complètement là-dedans. Mais là, moi, j'ai envie d'aborder la question du montage, la question de la couleur, parce que je pense que la question de la couleur, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors, dans le cinéma, évidemment, mais alors dans l'histoire des arts et de la peinture, la couleur, la question de la couleur, ça me semble évident. Voilà, la question de la musique aussi. Donc, de resituer, là aussi, beaucoup plus les films dans l'histoire du cinéma et de mettre en rapport une séquence avec une autre. Alors, c'est pas grave, vous allez regarder comment c'est aujourd'hui hein, sur ce donc à la fois de modules qui sont quand même des modules liés au film, on est bien d'accord, c'est des modules d'analyse de séquence du film. L'année prochaine, ce que j'aimerais, c'est-à-dire c'est ce sur quoi je commence à travailler, c'est qu'on mette en place des modules d'analyse transversaux qui soient en place dès la page d'accueil, qui nous permettent effectivement d'aborder une problématique telle qu'on l'a citée. Donc ça veut dire que si vous avez vous des envies, par exemple, en vous disant la question de, par exemple, aborder la question grand petit, qui est une vraie question, enfin, moi je trouve vraiment intéressante, vous m'envoyez un mail et puis vous me dites, tiens, j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus, parce que nous, notre travail, je retiens, vous allez. Grand petit, moi par rapport aux enfants, entre autres aux petits, c'est quelque chose qu'on a souvent extrêmement abordé. Hein. Gulliver, Alice, enfin, je dis, c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, surtout pour des enfants qui sont justement dans cette question du passage hein, et de l'échelle. Et que l'art a toujours travaillé sur justement les différentes échelles. Voilà, donc si vous avez des suggestions à me faire, des problématiques que vous souhaiteriez avoir abordées.
C'est bon, voilà.
Oui,
alors on a la
sur
Internet.
Il
faut qu'elle.
Il faut débrancher.
Elle est
C'est une conseillère art visuel.
Vous l'avez, mais.
Bravo les arts visuels. Mais moi aussi, j'ai un sur lequel j'ai mais voilà. C'est
n'a pas
voilà,
il
n'y a pas de sur la technique. Donc, néanmoins, envoyez-moi des suggestions parce que ça va être vraiment entre les deux projets. Donc vous prenez donc des listes, en tout cas des listes de choses comme telles. Alors pendant que les choses se règlent, je vais vous faire passer aussi un autre outil qui est là plutôt un outil mémoire. Qu'on a fait pour la première fois l'année dernière. Donc, il se trouve que Luc, c'est Pôle Régional Éducation à l'Image. Donc, vous connaissez peut-être auprès de vous des pôles. Hein, il y en a 17 en France aujourd'hui. Donc, les pôles ont été créés par Catherine Trottmann en 1999. Ce n'est pas du tout des structures qui ont été créées ex nihilo. L'idée, c'était plutôt de se dire que beaucoup d'actions existent sur le territoire en matière d'éducation à l'image, entre autres en collaboration avec la communauté enseignante, mais que ces actions, elles méritent effectivement d'être mises en synergie, d'être développées, d'être déployées. Donc on a donné à un certain nombre de lieux en France mission de justement huiler, développer un petit peu plus les actions. En même temps, après, on construit chacun sur notre territoire, évidemment, en fonction du terrain sur lequel on est, donc des partenariats pour nous. Je sais très bien que quand moi je dis que j'ai un inspecteur d'académie qui me donne la responsabilité totale du plan de formation image, les gens me disent, mais personne ne fait ça en France, t'as vraiment de la chance, oui, justement, beaucoup de chance, ça je le sais. À l'heure actuelle, il y a un nouveau DAC qui est arrivé dans l'Académie de Grenoble, qui me dit la même chose en disant la formation image sur l'académie, c'est à vous que je la confie, c'est-à-dire qu'il y aura un interlocuteur pour mettre en place une stratégie, développer après avec des enseignants. Mais se dire qu'à un moment, c'est aussi une question de relation avec des gens quand on se retrouve en convergence. Hein. Donc ce petit cahier de notes, il rencontre des actions menées, vous allez la voir, il passe, des actions qui sont menées sur le territoire, enfin qu'on a menées surtout l'année dernière. Donc des actions à la fois d'ateliers de cinéma, de visites d'expositions, parce qu'on commence à mettre en place des ateliers aussi d'accompagnement de nos expositions. Voilà, des différentes expériences. Ce que je voulais en tout cas, c'est réunir un petit cahier qui nous permette à la fois d'avoir les points de vue d'un enseignant, alors un enseignant à différents niveaux, d'avoir le point de vue de celui qui intervient, l'artiste, que ce soit un cinéaste ou un scénarisateur, et aussi quelques remarques des enfants. Donc c'est principalement des remarques de grands enfants, puisqu'il s'agit quand même effectivement d'écrire à ce moment-là, mais il me semble toujours important, je pense qu'une action, une action de sensibilisation, elle fonctionne si le trio fonctionne bien, c'est-à-dire s'il y a effectivement un passage entre les trois. Et que accueillir un artiste dans la classe, c'est accueillir l'altérité avec tout ce que ça peut avoir comme bouleversement, hein, que d'accueillir l'altérité et surtout celle d'un artiste. Et donc il faut accepter effectivement de se prêter, il faut avoir envie de se prêter au jeu. En tout cas, les bilans, si vous l'avez fait, vous savez qu'ils sont souvent très positifs, même s'il y a beaucoup de résistance. Il me semble que c'est sur les points de résistance qu'il faut travailler que les choses se passent. Voilà. Néanmoins, au fil des années, on a réussi à déployer beaucoup, beaucoup d'activités. Pour vous dire, les ateliers sur l'année qui vient de s'écouler, c'est 5000 participants. 5000 participants. On a sur l'activité cinéma en diffusion 25 000 participants et on a 5000 participants à des ateliers. Donc, ils sont principalement des enfants ou des collégiens scolarisés. C'est-à-dire qu'on développe, on commence à développer de manière un petit peu marginale et tout. Mais voilà. Et les actions les plus importantes quand même, c'est autour d'école et cinéma et l'accompagnement d'école et cinéma. Parce que je pense qu'on a, dans le cadre de l'école, une possibilité incroyable de mettre en place des actions avec les enseignants et que moi j'ai toujours porté beaucoup d'attention à ça. Voilà.
Voilà, je suis là sur cette photo, bien rangée, mal en dos, comme tous les autres. On regarde tous Denise qui prend la photo et qui nous a alignés comme ça, sur trois rangs, les grands derrière et les petits devant. Il fait comme d'habitude, comme le font tous les photographes qui prennent des photos de classe, appliquant scrupuleusement un dispositif qui doit mener à l'image standardisée attendue. Il s'agit de s'approcher au plus près du stéréotype. Cette photo doit être un cliché, le cliché de la photo de classe, identique à toutes les autres. Alors imaginons. Denise qui fait cette année-là, non seulement cette photo, mais celle de toutes les classes de l'école, et puis celle de l'école des filles, et puis celle de toutes les autres écoles de la ville, et du canton aussi. Et si on multiplie par le nombre de Denise qu'il y a en France, dans le monde, qui font ça tous les ans, de père en fils, on arrive évidemment à un nombre incroyable de la même photo. Toutes ces photos, ou presque, atterrissent dans des tiroirs ou des boîtes en carton. Elles disparaissent de notre vue. Même si certaines ressortent à présent numérisées des serveurs Internet, elles repartiront à coup sûr dans le même oubli. Parce que cette photo qu'on a tous, finalement, on s'en fout. Pas parce qu'elle est plus banale que les autres, les photos que l'on possède le sont pratiquement toutes, mais parce qu'on y met moins d'affectifs que celles, par exemple, plus strictement familiales, ou reliées à un réseau d'amitié plus resserré. ou rattachés à des moments importants de notre vie. Non, parce que tu vois là, c'est machin, tu t'en souviens? Et un tel, ben non, je m'en rappelle plus. Et un tel d'abord, c'était pas mon pote. Alors cette photo... Quand même, revenons à celle-ci, celle que Denez a fait de nous. Je dis Denez parce qu'à l'époque on se nommait comme ça, truc ou machin, sans prénom. L'instituteur faisait pareil et Denez a signé comme ça, sans son prénom. Un peu de travers, un peu trop lourd, mais bon. Il a rajouté la date, 63-64, j'ai donc 8 ans. Nous sommes à l'école de garçons de la rue Stéphane Dalu, qui n'existe plus. C'est une école privée, chez les curés, comme disent ceux de la laïque. Mais peu importe, tout ça ce ne sont que des détails pour les éventuels nostalgiques. Par contre, ce que tout le monde peut voir immédiatement, c'est l'impression de tristesse qui se dégage de la photo. Bien sûr, cette tristesse vient d'abord de la photo en elle-même, en tant que tout simplement photo, qui dans son essence induit automatiquement ce sentiment de petite mort. Chaque photo que l'on contemple est forcément du passé, et les polaroïdes instantanées n'y pourront rien. Tout de suite, c'est déjà trop tard. Mais dire tout cela est aussi un autre cliché. Et puis le noir et blanc et ses variantes, ça n'arrange pas l'affaire et renvoie directement au siècle passé. Alors évidemment, aujourd'hui, en couleur c'est plus gai, mais c'est surtout parce que les enfants ont appris à sourire. Nous, non, et si cette photo est triste, c'est que nous, les copains et moi, on fait la gueule. On respire pas la gaieté, la joie de vivre, le bonheur d'être écolier. On est tous nés en gros autour de l'année 56. En plein baby-boom, comme disent les historiens. Les sociologues ajoutent que c'est l'avènement de l'enfant roi. Sûr, on l'a pas perçu comme ça. On est loin de ce qu'on nous montre en général pour illustrer les années 50, avec ses ménagères pimpantes, ses bagnoles terribles et son twist endiablé. Nous, on fait la tronche, et nos expressions renvoient à des époques encore plus lointaines, à des périodes encore plus terribles. La façon dont on est fagoté n'arrange rien. Faut dire qu'on vient tous de ce qu'un politicien cynique a appelé la France d'en bas. Pull tricoté, chemise des frangères rapiécées, même si certains ont fait des efforts pour la circonstance. Alors bien sûr, il y a quelques indécis, ou lui, qui rentre dans les canons publicitaires, et c'est l'exception qui confirme. Lui, ça compte pas, c'est le fils de l'instituteur. Ou alors eux, mais on sent rire de situation liée à une quelconque embrouille de potache. Et lui, qui ressemble à Rimbaud, qui ne regarde pas exactement l'objectif. Son regard porte plus loin, il est ailleurs, il a sans doute tout compris. Mais bon, globalement, l'ambiance est plutôt plombée. D'accord, on ne peut pas en déduire une généralité qui conclurait au maudit de notre génération. Faudrait pour cela reprendre toutes les épreuves des Denez de l'année, ou du moins une quantité probante pour faire des statistiques, compter et recompter, mais on n'est plus à l'école. Donc pour aborder le général, on passera par le particulier. Et on va prendre deux cas, au hasard, presque. Le plus grand, là, le blond qui dépasse. C'est pas qu'il soit le plus grand, c'est qu'il est le plus âgé. Il pose avec nous parce qu'il a son frère dans notre classe, et on réunissait les fratries pour la séance de photos. Et lui, au premier rang, qui visiblement fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui une minorité visible. L'époque employait d'autres termes, certes plus concis, mais qu'on va oublier. Si on isole leur visage, si on enlève les références au contexte, on en arrive à un autre standard de la photographie, la photo d'identité. Un autre genre, a priori, à l'opposé de notre photo de groupe. Enfin, a priori, pour cela, il faudra qu'elle atteigne le statut de portrait, et ça, c'est une autre histoire. La photo d'identité se rapproche de la photo de groupe en ce qu'elle reste planquée, que ce soit dans un portefeuille ou dans un fichier de police. C'est aussi une photo obligée, qu'on trouve la plupart du temps ratée. Bien sûr, on fait pitre un moment dans les photomatons, mais ça lasse généralement assez vite. Alors on en fait quelques-unes dans notre vie pour satisfaire à des administrations quelconques. Mais restons concentrés sur la photo de groupe et imaginons la vie de nos deux jeunes héros. Ce qui suit est une pure fiction et ils ne m'en voudront pas. Alors comme ils sont restés dans la même école et que l'un a redoublé, les voilà à nouveau sur une autre photo de classe. Puis le destin les sépare, l'un fait du foot, l'autre, le grand bien sûr, du basket. Il va pouvoir éviter l'armée, mais ne manquera pour autant aucune défaite des conscrits tous les 10 ans. Entre-temps, il passera du basket à la pétanque, passera d'un boulot à l'autre. Ah oui, se mariera aussi. L'autre ne coupera pas à l'embrigadement, mais reprendra ensuite ses études, brillamment d'ailleurs. Il aura des diplômes, des promotions, du mérite. Il côtoiera la France d'en haut, ira plus haut encore. Il finira même par poser pour une autre photo standardisée qui nous laisse tout aussi indifférents. Mais bon, quand même, tout ça pour ça. Bien sûr, il saura sourire. Les communicants lui auront appris. Et finir pareil, selon un protocole, aligné, bien rangé. Pour nous, il n'y avait pas de protocole. On aurait pu se retrouver comme ça. On était dans la logique du pur arbitraire. Aligné sur, puisqu'on passait notre temps à l'être, aligné, rangé. L'école n'était qu'un apprentissage pour se tenir raide. Je ne me souviens pas du moment de la prise de vue, mais je sais comment ça a dû se passer. Le diabolo est entré dans la classe, et quand il entre, on se lève. On est sorti dans le couloir, en silence et en rang, bien sûr. Dans la cour, on a attendu, groupé par classe, notre tour. En silence toujours. Puis on nous a placés, les petits devant, les grands derrière. Très bien. Maintenant, on ne bouge plus. Évidemment, personne ne nous a dit de sourire. On n'est pas là pour rigoler. Pause, longue. On recommence parce qu'il y en a un qui a bougé. Voilà, c'est fini. Merci, monsieur Donnez. On rentre finir la dictée. En rang, s'il vous plaît. Vite et en silence. Je n'ai jamais compris qu'on puisse aimer l'école. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette photo. Je n'en ai aucune autre du genre. Je n'ai gardé que celle-ci, qui me dérange, me trouble depuis longtemps. À chaque déménagement, elle ressort, et je me retrouve devant sa gravité, intacte, qui correspond bien au sentiment qu'entretient ma mémoire de cette période. Et juste pour ça, c'est peut-être une bonne photo.
Alors ça c'est le film donc, qu'il a fait pour présenter la résidence, qui est l'occasion de montrer un peu comment il a envie de travailler. Donc d'abord en mettant en scène sa propre histoire, hein, c'est sa propre histoire là qu'il raconte, mais en invitant chacun de fait à raconter aussi sa propre histoire. Et quand je dis raconter, Bruno travaille vraiment sur l'idée de fictionnaliser, hein, raconter des micro-fictions de cette photo, parce que ce qu'il fait avec cette photo qu'on a chacun d'entre nous, et comme il va le faire avec tous les standards, c'est vraiment un travail de fiction. Donc le travail qu'il mène, c'est marrant parce que c'est un travail de cinéaste qui mène avec un médium qui est celui de la photographie. Hein. C'est vraiment un travail sur la mise en mouvement et la mise en fiction de ce que les gens vont faire. Donc ça, c'est un film qu'il a fait effectivement pour présenter le travail en septembre. Évidemment, le travail qu'il fait, là, c'est pas celui-là. Après, il mène des ateliers divers et variés qui sont des ateliers assez ludiques, avec des enfants, notamment sur la question d'identité. Je crois qu'il a été extrêmement sensible à ce qui se passe en ce moment sur cette question-là, en disant que l'identité, effectivement, elle transparaît bien dans les photos. Donc il travaille beaucoup là-dessus. Mais il travaille aussi en invitant les gens à venir déposer, par exemple, leurs photos de vacances, avec le projet de construire une frise gigantesque sur les photos de vacances. Donc on commence à récupérer de drôles de photos de vacances, je vais vous dire. Donc l'idée, en tout cas, c'est ça, c'est de travailler sur des prototypes, de les détourner, de jouer avec, pour construire une œuvre qui sera une œuvre collective. Donc tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais lui, en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est qu'on aura, entre le mois de mai et le mois de juin, une œuvre collective de Bruno Rosier, des 500 participants de tous les ateliers qu'on a fait. C'est donc pas des ateliers qui s'inscrivaient dans l'idée de l'histoire des arts, hein, puisqu'on travaille au-delà de ça dans les accueils d'artistes, sauf qu'il me semble que sa façon d'appréhender la chose, c'est vraiment, en tout cas, d'inscrire dans une histoire, et pas n'importe laquelle, la sienne, mais aussi celle de chacun des participants, hein, d'ouvrir cette possibilité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'histoire, si ce n'est la sienne, enfin, il faut qu'on ait une prise sur l'histoire. Histoire avec un grand H, je ne sais pas si elle a beaucoup de sens comme ça d'emblée, si on n'a pas eu un vrai grand H comme tel. Donc voilà le travail qu'on est en train de mettre en place avec lui. Voilà.
C'est la qualité du texte aussi qui est photographe, mais c'est réussi aussi parce que c'est la qualité de l'écriture.
Alors Bruno d'ailleurs est très, très étonnant, c'est quelqu'un qui vit à Chalon-sur-Saône, donc il n'est pas loin d'ici, et moi j'ai découvert son travail dans un livre parce que. Il a trouvé un jour, comment ?
Quel berceau de la photographie.
Oui, en plus. Enfin, il s'est installé, mais il est originaire de Tarare, hein, c'est ça. Ouais, je ne sais pas si c'est pour dire ça, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûre quand même. Il a trouvé un jour une valise avec des photos d'un voyageur qui avait parcouru le monde dans les années 20. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, donc il a passé 10 ans de sa vie à aller se photographier comme ce voyageur, inconnu évidemment, dans les mêmes lieux, en essayant de trouver quelques archétypes vestimentaires pour qu'en définitive on soit extrêmement perdu. C'est un jeu sur le temps qui est très troublant. Donc l'ouvrage que je vois d'ailleurs pour vous raconter effectivement, je crois que j'ai un trou sur le titre de l'ouvrage, là, je me demande si je ne l'ai pas cité dans ma plaquette, la jeune public. Est-ce qu'il n'y a pas une photo pour vous montrer un peu ce que ça donne? Si, c'est ça. Ça s'appelle La méthode des lieux ou la mémoire des parallèles. Il y a une photo là, dans la petite plaquette. Tout au début, Patrice. Voilà. Donc, moi, j'ai découvert son travail comme ça. Un jour, je vois ce livre arriver, je me dis, c'est drôle, ça. C'est drôle parce qu'en plus, je ne comprenais pas du tout très bien dans quelle temporalité on était, c'est-à-dire quelle était la plus récente et la plus ancienne des photos, ça ne me venait pas d'emblée. Hein. Il y avait quelque chose d'extrêmement troublant là-dessus. Mais déjà, il s'agissait d'une mise en fiction et d'un jeu sur le temps. Hein, le temps de pause, le travail, si tu photographes, c'est un travail sur le temps, on est en plein dedans. Mais là aussi, qu'est-ce que c'est que reprendre la même photo 50, 60, 70 ans plus tard? Qu'est-ce que ça veut dire? S'interroger sur sa propre place dans la photo. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie réflexion à la métaphysique hein, sur la question aussi du temps, de notre place dans le temps, qui m'intéressait beaucoup. Voilà. Donc c'est en voyant ça que j'ai eu envie d'inviter. Le projet qu'on est en train de mener dépasse tout ce que j'imaginais. Je vais vous dire vraiment, c'est un travail absolument formidable. Parce que, bon, on sent dans son film, on sent à la fois la gravité du personnage, mais en même temps la générosité de quelqu'un qui, simplement, pour ma présentation de saison, à qui je dis tu me donneras quelques photos, arrive en me donnant un film. Ce n'est quand même pas beaucoup qui me font ça. Et puis en même temps, on sent qu'il est là, quoi. Il est là, et là, il s'est installé, il est dans notre bureau, et je pense qu'il est dans notre bureau cet après-midi, je ne sais pas là qu'il pourra en profiter. Enfin, c'est ça, quoi. Il est chez nous, avec nous, et avec les gens. Et à Valence, les gens l'interpellent dans la rue en disant c'est Bruno Rosier. Et ça, je trouve que c'est super quand on est parvenu à ça. C'est-à-dire quand les gens viennent me voir en disant vous êtes Bruno Rosier, on a entendu parler de vous. Donc il a installé un photobaton au luxe, alors c'est très drôle, alors, ils prennent les spectateurs qui viennent au cinéma par exemple, mais c'est mon conseil d'administration qui sort avec toutes mes tutelles qui vont se retrouver photographiées aussi, enfin il y a des choses comme ça, dans le mélange, le rassemblement des gens qui est assez extraordinaire.
Mais n'empêche que par rapport à l'histoire des arts, je trouve que c'est très pertinent.
Ah bah c'est très
pertinent. Parce qu'on a, surtout pour la photographie, on est dans une époque où avec le marché de l'art, et l'autorisme fait des ravages et les cotes des artistes avec. Donc les photographes sont tentés aussi d'adopter des postures d'artistes. Voilà. Mais tu parlais de Chalon est l'exemple même d'un musée, le musée Niépce, qui a une approche qui est tout à fait inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt sociologique, en s'intéressant aux standards, à toutes les pratiques sociales autour de la photographie qui ne sont pas faites forcément par des photographes avec un grand P et qui ne vise pas forcément à l'art, il y a énormément de pratiques photographiques dans notre vie. Et prends comme exemple la photo de mariage, travailler avec un groupe d'élèves sur la photo de mariage, ça peut donner des résultats formidables.
On va installer un studio de photos de mariée, d'ailleurs aussi dans le studio estival, il y aura voilà, le samedi, photo de mariée, oui, on fera ça.
Oui, tout à fait. Bon, carte postale aussi, ça permet de carte postale par rapport au site. On évite la façon dont la place de l'église a été photographiée, en faisant des recherches chez les gens, s'ils ont des photos amateurs. Ça, c'est tout un champ où on peut associer l'histoire personnelle et articuler l'histoire personnelle des élèves et en même temps une pratique.
C'est ça qui est assez intéressant. Quoi. Je veux dire que partant effectivement sur un statut d'image qui est très particulier, qui est celui de l'amateur, de l'image amateur au sens large, qui est celle sur laquelle on a chacun d'entre nous appris, c'est bien parce que ça laisse une place à chacun, hein, au même titre que le fait de partir de l'histoire actuelle. Et en même temps, ça permet de jouer sur énormément de modes de figure, de poser énormément de questions, de décrypter ce qu'il en est des images, parce que le but aussi, quand même, c'est ça, hein, de s'interroger sur le sens des images. Quand je disais que ce qu'il avait choisi, évidemment, de travailler sur la question d'identité, ça va assez loin quand même, hein, ce qu'il aborde. Hein, alors évidemment, c'est pas dit comme ça avec des élèves, vous pouvez bien comprendre, mais on comprendra dans la restitution finale, et notamment dans le travail qui a été fait avec les primo arrivants, qui sont les adultes, hein, on comprendra ce qu'il en est de cette question d'identité aujourd'hui. Quoi. C'est en plus une démarche très politique, ça, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est une résidence qu'on mène en ce moment. On en démarre une autre avec une autre photographe qui s'appelle Bernadette Tinto, qui a un travail tout à fait différent. Il a travaillé plutôt dans la ville et sur les traces laissées sur les pierres. Elle travaille entre autres sur les graffitis. On va démarrer avec elle un autre travail très, très différent. Elle travaille sur la question du palimpseste, hein, de ce qui reste effectivement du manuscrit. Donc c'est là aussi un travail qu'on va mener sur la question de l'écriture et de la temporalité, qu'on va mener en rapport aussi avec la question de l'architecture, puisque c'est un projet qui est monté avec Valence Ville d'Arrêt d'Histoire. Et la troisième photographe que j'espère avoir au début, à l'automne, c'est Béatrix von Fontin, qui est une photographe allemande, qui a beaucoup travaillé sur le paysage, notamment pour le parc de la Vanoise. Elle a fait des relevés topographiques pour la Vanoise. Voilà, elle a un travail d'une appréhension du paysage qui est vraiment très belle. Voilà, donc sur les photographes en résidence, j'aimerais qu'on puisse en avoir systématiquement un par semestre. Et puis j'aimerais qu'on puisse avoir d'autres artistes qui le font. Dès l'année prochaine, j'aimerais qu'on puisse avoir un cinéaste et un chorégraphe pour aboutir à des créations de vidéos danse comme telles. Donc là, vraiment plus dans la question du croisement comme tel, avec des formes qui sont des formes d'aujourd'hui, des formes d'écriture d'aujourd'hui, et qui peuvent aussi revisiter un peu plus l'histoire. Voilà. Donc je voulais vous montrer un autre projet. Un projet qu'on a fait il y a quelques années avec Marc Delhomme, qui est dans votre stage d'ailleurs, qui est un conseiller pédagogique à Valence, en art visuel. Un hommage aux Frères Lumière, c'est qu'avant qu'on parle de l'histoire des arts, on avait travaillé sur la revisitation des plans Lumière, d'un projet aussi assez important, puisqu'on avait associé 12 classes primaires dans le département. C'était principalement milieu rural. On avait associé des documentaristes qui intervenaient, c'était principalement des jeunes gens qui sortaient du SAS à ce moment-là. Et on a fait un projet qui est extrêmement intéressant, qui permet de revisiter le plan Lumière. Donc on a l'impression qu'il y a une pauvreté, qu'il est très formaté, standardisé, rien du tout. C'est formidable, parce que alors là, on est vraiment dans le principe. Quoi. Comment, à l'inverse, en partant de formes qui avaient un peu plus d'un siècle, hein, quelle actualité elles ont encore aujourd'hui chez des enfants qui avaient pour la première fois dans leur main une caméra. C'était vraiment un passage à l'acte avec en plus l'émotion, l'exaltation, je dirais, du premier geste créatif. Et c'était un très joli projet. Voilà. Et puis je voulais vous conseiller, mais je pense que vous l'avez peut-être, un outil que j'aime et que j'aime beaucoup vraiment, qui est Petit à Petit le cinéma, qui est justement une façon d'apprendre l'histoire du cinéma, justement sans chronologie, sans commentaire. Voilà. J'aime beaucoup le travail que fait Nathalie Bourgeois, la cinématique française, sur l'histoire des arts. J'aborde à peu près les choses de la même manière, d'ailleurs, ce soir du cinéma. Voilà. Mais cet outil-là, moi, je l'utilise. Voilà. Donc, venir que sur notre site qui est en cours, le site Lux, hein, qui a une page d'images, en cours de reconstruction, on a une partie qui s'appelle Blog, qui est un espace où il y a des artistes. Donc, pour le moment, il y a 3 artistes, comme par hasard. Vous allez trouver notre Bruno Rottier. Donc, si vous voulez suivre la résidence, ce qui se passe dans la résidence, ben, le blog est un espace participatif aussi. Voilà. On a mené d'autres actions qui, pour le moment, ne sont pas en lien parce que le site est en reconstruction, mais on a accueilli Paul Cox en résidence, donc que vous pouvez connaître, je pense, du groupe en côté Illustration Jeunesse, qui nous a fait une production d'une exposition qui est formidable dans la maison. Donc il y a toutes les traces du travail avec Paul Cox, et on a beaucoup travaillé aussi avec, dans des ateliers multimédia, on n'en fait plus maintenant. Et il y a 10 ans, on a mené beaucoup d'ateliers multimédia, dont un dont j'ai beaucoup aimé le travail, qui était une cybergalerie virtuelle qu'on avait montée sur la question de l'autoportrait, qui est une grande question de l'histoire de l'art aussi. On avait invité les enfants, c'était des enfants primaires, des CM2, à se remettre en scène dans des images de l'histoire de l'art. Donc, d'abord picturales, ils sont allés assez vite au cinéma d'ailleurs aussi, et c'est un travail extrêmement intéressant. Il n'est pas en ligne, j'espère que d'ici une quinzaine de jours, on pourra remettre en ligne la cybergalerie, parce que vous pouvez y faire des parcours et vous pouvez aussi y rajouter vos images. Voilà. Et puis sur les nouveaux outils, ben voilà, on évolue et on aura de plus en plus, en tout cas, une mutualisation des expériences menées. Donc on dit nouveaux outils, c'est principalement portable.